Jean Vilain vous présente ses nouvelles vilaines.
Vilaines nouvelles ?
Nouvelles vilaines.
Vilaines nouvelles.
Nouvelles vilaines. Nouvelles vilaines. Vilaines nouvelles. Nouvelles vilaines. Histoire. Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, nous allons retrouver l'étau. Vous vous souvenez, ce feuilleton basé sur des jeux de mots et auquel, d'ailleurs, vous risquez de gagner un t-shirt si vous nous annoncez le bon nombre de jeux de mots vaseux dans chaque émission. Voilà, eh bien voilà, entre le moment où nous avons quitté notre héros et le moment où vous entendrez cette émission, il s'est passé plusieurs jours et bien des choses. Je vous dirai sans détour que le fameux coup de téléphone là qui ponctuait si bien à propos la fin de l'épisode précédent, en fait, c'est juste un artifice bien connu de tous les feuilletonistes. Hein. C'est à croire que le téléphone, d'ailleurs, a été inventé rien que pour ça. Enfin, ou plutôt, c'était à croire, hein, parce que maintenant, ce procédé est entré dans les mœurs et il devient très très difficile d'avoir la moindre conversation avec qui que ce soit sans que la machine à sonner les cons fasse entendre sa sonnerie. Mais nous ne sommes pas là pour dire des lieux communs et revenons à nos moutons. Ah tiens, à propos de moutons, j'ai une blague tôt, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est un avocato qui défend un groupe de tôt injustement accusé de ne pas être des faux gros. Donc avant le procès, il leur donne un seul conseil, mais un seul. Il leur dit, voilà, ne paraissez pas dynamique. Hein ? Lorsqu'on voudra vous faire avouer que vous avez mangé plus que votre part, niez. Soyez affable. Montrez-vous prêt à coopérer. Bref, en résumé, soyez mou, tôt, niez. Voilà, et ce merveilleux enchaînement nous ramène tout droit à notre héros qui a eu le temps de prendre contact avec Antonin et, grâce à celui-ci, de faire connaissance avec un des plus grands spécialistes de la question. Lorsque nous retrouvons notre héros, il est attablé dans un restaurant de fort bonne figure. Les larbins sont nombreux et discrets. Ah, manifestement, ce n'est pas une guinguette. En face de lui, le teint rougeau, la barbe en bataille, la lunette écailleuse, le ventre en avant, regardant d'un œil pétillant le breuvage au reflet grenat que le sommelier verse cérémonieusement dans son verre, est assis le spécialiste en question. Un rapide tour d'horizon des lieux nous apprend qu'ils n'en sont pas à la première bouteille. En effet, pendant que le sommelier a accompli son office, un autre employé de restauration ramène en cuisine les reliefs de ce qui fut un plateau de fruits de mer. Un autre, à quelques mètres, est aux commandes d'un magnifique assortiment de fromages. Un modèle du genre, à 4 étages rétractables, cloche incorporée en argent massif, roulette en téflon, une merveille. On sent qu'il piaffe. Ses mains gantées de blanc se crispent sur la poignée du chariot. Ses yeux ne quittent pas la main d'une maître d'hôtel qui lui donnera le départ. On sent que le moment approche. Il respire profondément et c'est parti. Il sera arrivé pile au moment où notre spécialiste aurait approuvé le vin et aurait donc été disponible pour le choix de ses fromages, sans l'affreux roquet de la petite vieille déguisée en sapin de Noël qui se trouvait à la table voisine. Alors que notre serveur prenait son départ, la bestiole se mit à faire le beau au milieu de l'allée. L'accident était inévitable. Le serveur, en pleine accélération, ne put freiner sur le parquet ciré du matin même. Il fit une tentative, laissant la gomme de ses semelles au sol, deux longues traînées qui témoignaient de la violence de la décélération qu'ils durent subir, lui et ses fromages. Celle du choc ne fut pas moindre. Le cabot, une patte cassée, couinait misérablement. La vieille hurlait en pleine crise de nerfs, à deux doigts de la crise cardiaque. Les larbins, à quatre pattes, ramassaient les fromages, les ramenaient en cuisine. Là, ils leur redonnaient une forme approximativement normale, un coup de brosse, ni vu ni connu, et les remettaient en place sur le magnifique chariot de compétition, heureusement sorti indemne, à une rayure près de cet accident. Cet intermède, involontaire, perturba un tant soit peu l'ordonnance du repas, et notre spécialiste de la question dut attendre quelques minutes avant de choisir ses fromages. Il n'eut pas l'air d'être le moins du monde perturbé par ce manquement à l'étiquette et reprit son discours là où le sommelier l'avait interrompu pour lui présenter le vin.
« Alors comme je vous le disais précédemment, » dit-il,
il prit un temps pour s'essuyer la moustache.
Ce vin est excellent.
Notre héros approuva de la tête et le spécialiste reprit.
Donc, comme je vous le disais précédemment, je suis considéré comme le spécialiste des mythes fondateurs du peuple Tau. Les Américains m'ont surnommé The Big Mythomane, c'est dire.
Notre héros, le nez dans son assiette, approuva d'un vague sans lever les yeux. Les coudes écartés, le nez dans l'assiette, la parfaite image pour séduire Hollywood, quoi.
Ma documentation sur les Taucariens, est une des plus considérables du monde occidental.
Ce que reprit le spécialiste en se resservant un verre.
Et, sauf peut-être un certain Bernard Pochet, dont j'ai vaguement entendu parler, je suis le seul en France à pouvoir répondre aux questions que vous vous posez. Ce que vous voulez savoir, c'est comment les Taux sont arrivés sous nos latitudes. Où auraient-ils pu se fixer, se reproduire et peu à peu infiltrer notre culture au point de nous faire adopter des mots de leur vocabulaire et pourquoi pas, au-delà, certaines de leurs coutumes. Oh, je fais là, bien sûr, une synthèse de l'ensemble de vos questions qui ne tendent qu'à cette résultante.
Suite à quoi, il vida son verre d'un air satisfait. Il s'essuya la moustache d'un revers de manche et poursuivit. Notre héros, qui avait fini avec son assiette, vidait verre sur verre en le regardant pérorer. Ah, il allait enfin apprendre ce qu'il voulait savoir. Alors là, étant donné le manque de correction des protagonistes de cette scène, nous pensons que vous ne nous en voudrez pas de vous priver d'image. Nous sommes les premiers à regretter ce comportement de nos héros, croyez-le bien. Et ce n'est pas de gaieté de cœur que nous en arrivons à une telle autocensure. Hein ? Ah, mais on me parle là dans mon oreillette. Ah, on m'informe que de vous priver d'image entraînera aussi une coupure du son. Nous allons donc terminer là cet épisode en vous demandant encore une fois de nous excuser du manque de savoir-vivre de nos héros. Franchement, le prochain épisode sera-t-il aussi nul ? Nos héros vont-ils apprendre les bonnes manières ? Hein ? Et que va nous révéler le grand mythomane ? C'est ce que vous apprendrez peut-être dans le sixième épisode de « On est plus tôt que tu ne penses ». Ah oui, cher auditeur, étant donné la piètre qualité de notre précédent épisode, nous nous sentons dans l'obligation de vous renouveler nos excuses et de vous demander de considérer que cet épisode était nul et non avenu. Néanmoins, vous remarquerez que cet incident a pu vous prouver que les épisodes de cette saga se déroulent en direct, ce qui explique que nous ne pouvons pas forcément maîtriser les impondérables et encore moins les chiens. Ah, le PSG maîtrise-t-il ses supporters ? Le ministère des Finances maîtrise-t-il le budget ? Dieu maîtrise-t-il sa création ? Non, nous n'allons pas rajouter cette question à celle qui nous préoccupe déjà, tout ceci étant déjà assez compliqué comme ça. Nous nous contenterons donc de faire amende honorable en vous offrant un épisode gratuit. Ah oui, comme ça, ça n'a l'air de rien. Mais pensez que non seulement vous êtes le seul auditeur, or l'auteur bien sûr a possédé un exemplaire de ce cinquième épisode, hein, je vous rappelle, ça en fait une pièce rare, mais vous serez le seul auditeur à posséder deux cinquièmes épisodes. Puisque l'épisode d'avant, qui était le cinquième, vous le possédez déjà, et nous allons, bien sûr, comme nous le remettons en cause, vous donner un deuxième cinquième épisode. Ah, c'est pas une radio comme les autres, hein, c'est la seule radio à faire deux cinquièmes épisodes. Donc, c'est en route pour le cinquième épisode de « On est plus tôt que tu ne penses », où on va peut-être enfin apprendre quelque chose. Dans le journal du héros, daté du lundi, on peut lire « Sur les conseils d'Antonin, j'ai pris contact avec un éminent spécialiste de la culture tau. Celui-ci m'a fort bien reçu et j'ai pris le train pour le rencontrer. Il demeure dans la plaine bitéroise et nous avons décidé de nous rencontrer à Béziers. Je ne sais pas si j'ai bien fait de mettre à cette occasion mon costume de Sherlock Holmes. Pendant tout le voyage, il m'a semblé que j'attirais un tant soit peu les regards. Pourtant, ce manteau à capeline et la casquette à double visière qui l'accompagne sont coupés dans un tweed de premier choix. Cette magnifique étoffe, entièrement faite à la main au fin fond des Highlands, aux carreaux verts pisseux et jaune fluo, est du plus bel effet. En tout cas, mon interlocuteur n'a eu aucune difficulté pour me reconnaître en garde de Béziers.
« Ah, monsieur Holmes, je suis content que vous soyez là. Avez-vous fait bon voyage ?»
me dit-il en me secouant violemment la main entre les siennes. J'ai en effet cru bon de prendre un pseudonyme pour mener cette enquête, et je ne sais pas pourquoi, c'est sous celui-ci que je me suis spontanément présenté à lui lors de notre première conversation téléphonique. Nous allâmes donc nous asseoir dans un bar tranquille pour faire plus amplement connaissance.
« Oh, je suppose que c'est un pseudonyme !» m'interrogea-t-il.
« Oui, lui répondis-je.
« Oh, je vous comprends !» dit-il.
« Ah » bai-je.
Je devais avoir une drôle de tête car il ajouta « Vous ne savez pas !»
Ça dépend.
Mais comme vous l'avez si bien pressenti à la lecture de ce « Salut les copains », et comme a pu vous le confirmer Antonin, les taux sont parmi nous. Et pas bien loin d'ici se trouve leur quartier général, si je puis dire.
J'attendis la suite avec impatience.
Voilà, tout a commencé par Genghis Khan. Vous devriez retirer ce manteau et cette casquette, c'est comment dire... vous allez prendre froid en sortant, voilà.
Un peu pour lui faire plaisir et un peu parce qu'il avait raison, je fis ce qu'il demandait. Cet homme n'aimait pas qu'on le regarde. Qu'avait-il à cacher ? Quand je me rassis en face de lui, il reprit
« Vous n'êtes pas sans savoir que Genghis Khan est né dans les années 1155-1167, enfin on est vraiment sûr de rien. Mais ce qui est sûr, c'est que c'était le fils de Yezuge Bahadur, que son vrai nom était Temujin, et qu'il perdit son père très jeune et vécut une enfance difficile. Vers 15 ans, il se met au service du Khan des Kheret, Torgril. Torgril, c'était le nom de ce Khan, et c'est là que tout a commencé. Vous n'avez pas faim ?
Quand nous fûmes de nouveau assis face à face dans un petit et modeste restaurant tout proche, il reprit comme si rien ne l'avait interrompu.
Ce Khan, au service duquel il se mit, avait pour divertissement de regarder griller vif ses ennemis, d'où son nom, qui, je vous le rappelle, était Torgril. Et qui, bien sûr, doit se lire Togril ou Togril, enfin, ce qui revient à peu près au même, on va pas en chier une pendule. Bref, ce Khan était To, c'est plus que vraisemblable.
Ah là, je n'en revenais pas. Ce type avait été capable de faire une déduction de ce niveau. Oh, décidément. Je n'ai pas tort de me méfier de lui, pensait Jinpeto. Nous fîmes commande, ce qui me posa un problème, car je ne savais pas si c'était lui qui payait ou moi. Et très habilement, j'attendis de voir qu'il avait bien l'intention de se goinfrer pour en faire autant. Ah, il avait bon goût, l'animal. Il commanda un plateau de fruits de mer que je m'empressai de multiplier par deux. Le vin qu'il choisit ne déparait pas le tableau. C'était donc entre deux bouchées et deux gorgées que j'appris ce qui suit.
Vous savez ce qu'il advint de Genghis Khan, et ce n'est pas lui qui nous intéresse. C'est néanmoins grâce à lui et à un certain Attila, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, que les taux arrivèrent dans nos contrées et ont réussi à s'y implanter. Les décidants d'Attila, qui préféraient l'altitude, se sont adjugés les Causses et principalement le Larzac, où, comme vous avez pu le voir, l'herbe ne repousse plus. Les taux, on ne sait pourquoi, avaient un faible pour les étendues d'eau. Et c'est donc tout naturellement qu'ils poussèrent jusqu'à la mer. Si le paysage leur plaisait, il n'en était pas de même en ce qui concerne les nuisances sonores. Une des particularités physiques des taux est qu'ils sont fragiles des oreilles et que le bruit continu de la mer, le ressac des vagues, leur rendait la vie impossible. Ne pouvant pas dormir au littoral, et décide de s'éloigner un tant soit peu de la côte pour en garder les avantages et éviter les inconvénients.
Alors, au passage, vous remarquerez, amis auditeurs, que nous avons déjà travaillé sur les mots. Hein, les mots sont un autre peuple qui ne vous ont pas laissé de marbre si vous savez que les mots, comme les taux, sont fragiles des oreilles et que quand les mots tôt le matin font du bruit, étant fragiles des oreilles, les mots tard portent un casque. Voilà. Enfin bref, en tout cas, je ne sais pas si les mots ont existé, mais les taux existent bien. Et si ces deux peuples se sont côtoyés un jour, ils auraient eu effectivement des mots taux. Enfin, non, mais reprenons le journal de notre héros. Et dans ce journal, on peut continuer à lire.
Alors, nos taux, au bout de quelques kilomètres, trouvèrent un grand lac. L'endroit était plaisant, la mer, quoique proche, n'était plus audible. Ils s'installèrent, au grand dam des habitants de la région, parce que ces habitants trouvaient les taux très laids. Ils n'appréciaient pas non plus cette fâcheuse manito de barbecuter ce qui leur déplaisait, évidemment. Ils laissèrent donc les taux s'emparer de toute cette zone. Les taux s'installèrent donc tout autour du lac, sauf évidemment sur la bande où le ressac les empêchait de dormir. Lorsque le soir, des hauteurs voisines, ceux qui avaient été chassés voyaient s'allumer la multitude des feux de camp tôt sur les bords du lac, ils se lamentaient. Ah, c'est laid tant de tôt. À travers les âges, l'expression est restée, et comme souvent, le passage à l'écrit a été tributaire de l'accent local. Tôt est devenu tôt, et le lieu, les temps de tôt, eh oui, vous avez bien compris. Le quartier général des forces tôt en Europe est à deux pas de chez nous. Ah, mais comment donc un dessert?
Quel dessert notre héros va-t-il manger? Et qui va payer l'addition? Quelle est la menace exactement? C'est ce que nous saurons sûrement en écoutant le sixième épisode de notre grand feuilleton « On est plus tôt que tu ne penses ». Sixième épisode où notre héros prend conscience du danger. Pendant que mon interlocuteur choisissait son dessert en étudiant la carte avec toute l'attention qu'elle méritait, je pensais à ces taux, ce peuple nomade d'Asie centrale qui, après un long voyage parsemé de rapines et de massacres, vint se fixer chez nous. Ce peuple de chasseurs, de guerriers, qui est devenu sédentaire et vit des produits de l'étang près duquel il s'est installé. Qui aurait dit que sur le tard, tôt pêche? J'avais sans doute pensé tout haut, car mon compagnon dit au maître d'hôtel
« Oh, ben c'est une excellente idée, vous en mettrez deux !»
Ce n'est que lorsque lui-ci apporta les assiettes contenant les pâtisseries que je compris ce qu'il voulait dire par là. Et tout en engloutissant sa part, le grand mythomane, comme s'il se nommait lui-même, reprit.
Le grand danger que représentent les taux est qu'ils ont la faculté de changer petit à petit ceux qui les fréquentent à chaque rencontre ceux-ci deviennent de plus en plus comme l'étau. Le teint olivâtre et toute cette sorte de choses. Les autochtones ne s'y sont pas trompés en les fuyant et en leur abandonnant le terrain. De plus, ils se disaient que le taux nique et craignaient pour leurs épouses. D'autres préférèrent vivre retranchés, la ville de Sète, par exemple. Le soir, quand les travailleurs des champs se présentaient au poste de garde au pied des remparts, il n'était pas rare d'entendre le dialogue suivant.
Le garde, interrogeant un paysan. « C'est toi ?» Le paysan.
Tu me reconnais pas ?
Le garde. Le paysan.
« Je suis revenu plus tôt que je le pensais. »
Et c'est à qui cette mésaventure arrivait devait alors quitter la ville et aller pêcher avec leur amito. Le spécialiste, lui, avait fini sa tarte. Et après avoir commandé les cafés, il se remit à parler. Mais le ton était devenu celui d'une simple conversation.
« Connaissez-vous la pêche au lamparou ?»
J'approuvais de la tête.
« Mais savez-vous d'où vient cette expression ?»
Je l'ignorais. Et il commençait à m'agacer, ce type, avec ses airs de tout connaître.
Tout d'abord, il faut savoir que les Tau ont un dieu polymorphe. Ce dieu Tau change de nom selon ses attributs. Par exemple, le dieu Tau devient Tau-ner quand il est énervé. Et dans ce cas, il lance des éclairs. Vous remarquerez au passage que ce n'est pas sans évoquer le Zeus des Grecs.
Je ne relevais pas. Décidément, il m'agaçait. C'est moi le héros. C'est à moi de faire les déductions intelligentes qui me vaudront d'innombrables succès féminins dans les salons où on cause. Moi, je ne veux pas être le dindon de la farce et dire « le chocolat, c'est moi ».
En fait, reprit-il, une grande partie de la mythologie grecque est calquée sur les mythes Tau.
Logique, répliquai-je du tac au tac, autant pour lui prouver que je suivais parfaitement son raisonnement que pour la beauté du jeu de mots. Il me lança un regard étonné, un instant désarçonné, il appela le maître d'hôtel pour lui commander une autre bouteille. Mentalement, je tentais vainement de calculer le montant de l'addition. Lorsque nos verres furent à nouveau en état d'être vidés, il se remit à parler.
Les restaurateurs, les aubergistes Tau, rendent hommage à cet attribut de Tau qui est lié à un rocher nourrissant de son foie ceux qu'il avait promis de nourrir. Prométhée. Eux sont les tauliers de leur établissement et se contentent de vendre la nourriture. Pourtant, leur foie est grande. La plupart des coutumes Tau se sont implantées dans la région. Un des mythes les plus importants, pour ne pas dire le plus important, est le suivant. Il est dit, dans une légende qui se transmet oralement de père en fils, que la fin du monde arrivera le jour où le dieu Tau, insatisfait de son repas, n'éructerait pas. Car de cette éructation jaillissait une vache mâle et noire, armée de grandes cornes, symbole de l'opulence. Son nom, vous l'avez deviné, est le taureau. De nos jours encore, chaque année, à l'époque des vendanges, les taux se réunissent dans les vestiges romains qui servaient au jeu du cirque pour rendre hommage aux taureaux. D'un tunnel, évoquant la bouche du dieu, jaillit une de ces créatures, une vache mâle, noire et à grande corde. Un taureau doit mettre à mort la bête. C'est le roi des taureaux. En réalité, la cérémonie comporte 6 combats. Il n'y a donc pas un seul taureau réel, mais 6 taureaux. Non, Oui, monsieur Holmes, vous avez reconnu la coutume. Les taux sont partout. Mais pour que vous perceviez par vous-même à quel point j'ai raison, je vous engage à rester quelques jours dans la région. Et comme j'hésitais, il ajouta, « N'ayez pas peur. Dans le midi, il y a des gens qui ne sont ni taux ni truands. En attendant, je vous invite. » Ah, et là, à ces mots, je n'hésitais plus. Que va découvrir notre héros ? Serait-on plus tôt qu'on ne le pense ? Le titre de cette aventure n'aurait-elle pas été choisi au hasard ? Comment reconnaît-on un taux ? Ah, c'est à ces questions et à bien d'autres que vous nous convions pour la suite des aventures de notre héros. À l'heure où nous vous rejoignons, nous n'avons aucune nouvelle de notre héros. Nous savons de Marseille, bien sûr, comme vous, qu'il s'est rendu en compagnie du grand mythomane sur le lieu supposé d'implantation des taux, l'étang de taux. Et depuis, rien. Nous pourrions, bien évidemment, nous contenter de cette information et attendre sereinement la suite des événements et vous laisser dans l'expectative et remettre au prochain épisode les révélations de notre héros. Mais avons-nous le droit de vous décevoir ? Hein ? Comme nous l'avons déjà dit, un auditeur, c'est un auditeur. Nous avons donc établi un contact dans la zone des opérations et nous sommes à même de vous faire assister en direct à ce qui va suivre. Voilà, nous avons un envoyé spécial et voilà, on me dit dans mon oreillette que la liaison va être établie. Vous pouvez donc suivre le 7e épisode de notre grand feuilleton. On est plus tôt que tu ne penses. Je suis l'envoyé spécial pour cette enquête sur « On est plutôt que tu ne penses » et j'ai rencontré Marcel. Marcel est natif de la région. Bonjour Marcel.
Bonjour.
Vous êtes natif de la région et votre principale occupation est de regarder bouger les taux.
On peut dire ça.
Et vous avez étudié leurs coutumes, leur mode de vie ?
Je sais pas. Mais comment savoir comment ils vivent, con ? Je le sais, ma carole.
On nous a dit que c'est le soir que les taux pêchent. On nous a parlé d'une pêche au lamparot ou quelque chose de ce genre.
Ça c'est eux qui appellent ça comme ça, con. Nous, c'est la pêche à la lampe, con. Comme ils disaient les vieux. Mais eux, ils ne mettent pas juste une lampe, hein. Ils en mettent 6. Et c'est des drôles de lampes, ma carrelle. C'est des lampes en forme de taureau. Il paraît que c'est pour honorer un de leurs dieux, con. Et ils appellent ça un rôle, leur bon dieu de lampe. Alors nous, quand on les voit partir pêcher le soir, on dit comme ça pour rigoler, « Tard, tôt pêche et pêche au sirop !» Et ça nous fait rire, Macarel. Pas vous, con.
Alors là, nous ne savons pas exactement comment il faut interpréter ce dernier con. Est-ce directement adressé à un intervieweur ou doit-on prendre ça comme une démonstration de folklore local? La question reste en suspens.
Est-ce que les taux vous gênent, Marcel? Oh, bah, en groupe, ils sont assez gênants, con. Ils pêchent en groupe. On voit quand ils ont trouvé du poisson, Macarel. Ils s'en mettent tout autour du banc. Et les taux se resserrent et c'est foutu pour nous, hein, pas moyen d'approcher, Macarel. Mais vous savez, nous, les habitants de l'étang, on les aime bien, les taux. On avait bénéficié, nous aussi, de l'élévation de leur niveau de vie, hein. Plus les taux sont élevés, plus ça nous rapporte, con.
Et là, il reprend comme si rien n'était.
Ah, c'est pas comme les Américains, con. Alors ceux-là, les Américains, ah, je les aime pas, les Américains. Les Indiens, déjà, oh, ça passait mal, con. Et voilà que maintenant, ils abaissent les taux de la Banque Centrale, ma caniche. Ah, ça fait pas mes affaires, à moi. Je leur en veux, aux Américains. Et puis, la dernière guerre, ils font rien qu'à nous faire chier. Ah, Ike Eisenhower, là, vous vous souvenez de Dick Eisenhower, con? La mère Ike, ah, moi je l'appelle, Macarel.
Oui, bien sûr, mais si on en revenait au taux, finalement, si je comprends bien, vous aimez les taux?
Oula, oula, attention, hein, il me dérange pas, sauf une, la salope.
Vous avez eu des problèmes avec une femme taux?
Un peu, oui, que j'ai eu des problèmes. Ben, on devait se marier, con. Elle m'a lâché au dernier moment, Macarel. Mais je l'aurai, vous verrez, je l'aurai. C'est comme l'Amérique. Hein. Retenez bien ce que je vous dis. C'est tôt péracomique.
Retrouverons-nous notre héros au prochain épisode? Et que lui est-il arrivé à notre héros? Et que lui arrivera-t-il? Et pourquoi toutes ces questions? C'est ce que vous saurez peut-être en écoutant le déjà 8e épisode de notre grand feuilleton « On est plus tôt que tu ne penses ». Bon, alors, c'est pas bientôt fini toutes ces conneries, hein? Moi, je le paye le téléphone pendant ce temps-là. Ah, c'est bien beau le direct, mais il faut respecter les horaires. Sans ça, c'est pas juste, c'est toujours moi qui dois attendre. Mais allons, allons, cher héros. Ne vous laissez pas aller à la morosité ambiante. Il est bien normal que nous prenions quelques minutes pour dire merci à notre auditeur, sans qui, je vous le rappelle, vous ne sauriez pas ce que vous êtes.
Oh, mais vous en êtes un autre.
Bon, bon, bon. Alors, lors de notre dernier épisode, nous avons dû nous contenter d'une interview de Marcel. Pouvez-vous nous dire ce que vous faisiez pendant ce temps?
Ah, bah oui, bah oui, il serait temps que je vous le dise. Voilà, je me suis introduit chez les taux. J'ai fait connaissance avec une jeune taux qui répond au nom de Jardine. Grâce à elle, j'ai pu rencontrer ce que le monde taux compte de plus évolué. Ils m'ont parlé de leur histoire, leurs légendes, leurs croyances, mais aussi de leurs peurs et de leurs espoirs. J'ai, moi aussi, rencontré Marcel, et je ne suis pas loin de penser comme lui. Ben, que voulez-vous dire par là ? Ben, que nous devons à tout prix nous méfier des Américains, car ils nous entraînent vers un conflit, ou tout au moins vers de grands affrontements. Ah, vous pensez à l'Irak ? Ben oui, bien sûr, je pense à l'Irak, mais aussi chez nous, comme vous l'aviez laissé s'exprimer jusqu'au bout, Marcel, si votre soi-disant correspondant n'avait pas pris la mouche en s'entendant visé par les cons qui émaillent son discours, vous sauriez ce que je sais. Et que savez-vous de plus que nous ? Ah, hein, vous aimeriez bien le savoir. Hein. Seulement voilà, hein. Aussitôt que le héros il est pas là, on le remplace par n'importe quel soi-disant correspondant. Hein. On croit que c'est facile d'être le héros. Et quand enfin il revient, exténué par ses recherches, le héros, par les dangers qu'il a côtoyés, l'immense travail de réflexion qu'il a accompli, le héros, hein, on le laisse attendre au bout du fil pour parler à l'auditeur. Et en plus, vous voudriez que je vous livre comme ça, tout cru, le fruit de mes brillantes recherches. Non, mais je rêve, là. Je vais vous les raconter comme je veux, mes aventures. Au rythme que je veux, dans l'ordre que je veux et si je veux. Hein ? Il faut que ce soit bien clair. Le héros, c'est moi. Je ne sortirai pas de là. Parce que... Enfin, merde, c'est qui a eu l'idée de rentrer chez Antonin ? Hein ? C'est qui doit se balader avec ce ridicule costume de Sherlock Holmes et qui doit trouver ça très bien ? Hein ? Sans compter que le nombre de jeux de mots ridicules que je suis amené à assumer. Hein ? Quoique là, et des fois, j'aime bien. Il y en a un ou deux, tiens, tarte aux pêches, par exemple. En plus, elle était bonne, cette tarte aux pêches. Mais bon, c'est pas très valorisant, tout ça. Hein ? Un peu de respect, quoi. Hein ? Ouais, d'accord, j'ai besoin de travail et les postes de héros, c'est pas ce qui court les rues. Mais enfin, quand même. Bon, écoutez. Là, il y a un auditeur qui intervient. Je voudrais savoir, pas avoir l'air de dire que ça m'intéresse pas, vos petits problèmes relationnels avec la rédaction, cher héros, mais moi, on m'avait promis un épisode pour aujourd'hui, et en plus, c'est l'épisode que je voulais entendre, alors s'il vous plaît, continuez à nous raconter. Ah, mon cher monsieur, comme vous l'avez très bien compris, ce n'est pas après vous que j'en ai. C'est les autres, là, c'est ces requins de l'édition qui nous exploitent, nous, les héros, et vous, les auditeurs. Ah là là, quand on vous fait gagner cette tombola du lecteur, je suis bien sûr que c'était encore un moyen pour vous appâter. Ah là là, Il y a une chose, par contre, qu'on ne peut pas leur reprocher, c'est le choix du héros, c'est-à-dire moi. Là, je dis franchement, ce soit impeccable, juste ce qu'il fallait, l'homme de la situation. Mais alors, pour le reste, alors, c'est cette façon, l'air de rien, de créer un climat d'intimidation auprès de l'auditeur. Cette conception... toute sarkozienne de la sécurité... Franchement. Justement, à propos de curiosité, là, si vous voulez bien me raconter la suite, j'aurais franchement rien contre. Ah, et vous auriez raison. Et qui serait contre ? Certainement pas les salopards de la rédaction qui verraient d'un très bon œil que je vous débite ma petite histoire comme si rien ne s'était passé. Oui, mais alors, écoutez, moi, j'en ai rien à foutre de votre problème avec la rédaction. Je veux juste la suite de mon histoire. Ah, de mon histoire, vous voulez dire ?
Oui, bah, de votre histoire, si vous voulez.
Écoutez, je vous propose un truc. Je ne vous raconte pas la suite, parce que sans ça, la rédaction y croirait que je cède.
Par contre, je vous raconte ma rencontre avec un grand prêtre de la magie Tau. Et vous n'y perdrez pas au change.
Oui, mais la suite.
La suite, vous l'aurez au prochain épisode, la suite. Comme d'habitude, il ne faut pas vous en faire, mon petit vieux. Moi aussi, j'y tiens à la suite. Hein ? Tu sais, hein, plus ça dure, plus longtemps j'ai du boulot. Et en plus, vous êtes un auditeur sympathique. Hein ? Alors, on fait comme j'ai dit ?
Oui, mais enfin, c'est quoi exactement cette histoire de magie Tau ?
Voilà. Un soir, j'ai été convié à une séance de... Ah, comment dire, de désenvoûtement. C'est pas le mot exact, mais bref, en résumé, je suis entré dans une grande pièce où étaient réunis une bonne soixantaine de Tau. Ils formaient un cercle parfait. Au centre, le grand prêtre, un coup de canard farci dans la main droite et une égoïne dans la main gauche. Après avoir dansé quelque temps au son de la tarentelle ou de la sardane, selon le sens du vent et Charles Trenet, tout ce petit monde fait le plus grand silence. Le couteau scie et petit à petit, le silence envahit la pièce, se faisant de plus en plus lourd, de plus en plus présent, si vous voyez ce que je veux dire. Une sorte de silence de plomb. Et du fond de ce silence, un battement profond et régulier prend naissance. Il enfle bientôt. Il semble provenir de partout et de nulle part. C'est comme un battement, une pulsation régulière. Tic, tic, tic. À vue de nez, chaque type me semble séparé du suivant d'une période de temps équivalent à peu près à 99,999,999,999 centièmes de seconde. À chaque tic, le grand prêtre désigne du bout de son couteau à huître le Tau qui lui fait face. Je dois avouer que je n'aurais rien compris de ce cérémonial si Jardine, ma jeune guide, ne m'en avait révélé les dessous. Pour montrer son pouvoir, le grand prêtre doit retrouver, en le désignant, le Tau qui déclenche ce mystérieux bruit. Ce bruit, bien sûr, est l'écoulement du temps. Depuis le début de ceci, ce tic-tic prend possession d'un Tau différent chaque semaine. Pour ce faire, ce Tau est amené, malgré lui, on ne sait comment, à venir dans ce lieu saint et dérober la montre sacrée. Il s'agit pour le grand prêtre de désigner quel Tau cante cette montre, puis de le chasser symboliquement en prononçant ces mots. « J'en ai marre !» Taupiqueur. Ce rite ne rime strictement à rien, je le signale comme ça en passant, mais il ne faut surtout pas en tirer des conclusions hâtives. C'est un lieu commun de dire que le Tau pique. Sur ce, je vous quitte pour aujourd'hui en laissant la rédaction réfléchir à ce qu'il en coûte de provoquer les masses populaires et décider du montant de l'augmentation qu'elle ne manquera pas de m'octroyer. À toute fin utile, chers auditeurs, je vous serai reconnaissant de bien vouloir faire pression sur ces aigres fins de la rédaction et afin que nous puissions arriver à notre fin et au bout de cette histoire. Sur ce... A ciao. Qu'a dit Marcel à notre héros ? À quoi cette histoire de temps a-t-elle servi si ce n'est à nous faire perdre le nôtre ? C'est ce que nous ne saurons sans doute jamais, à moins que tout nous soit révélé dans le 9e épisode de notre grand feuilleton. qu'au fond de vous-même vous attendez déjà, on est plus tôt que tu ne penses. Alors nous, la rédaction de ce feuilleton, nous sommes bien obligés d'avouer que l'attitude de notre héros ne nous plaît pas du tout. Depuis quand un simple employé, dont l'unique souci devait être celui d'être les résultats de l'entreprise auquel il collabore, se met-il à avoir des états d'âme aux remugles marxisto-revendicateurs? Nous avons envisagé à un moment la délocalisation de ce feuilleton. De nombreux héros thaïlandais, lusitaniens, romano-slovaques ou autres seraient tout à fait prêts à reprendre au pied levé et à mi-tarif, si ce n'est pas moins, ce rôle dont on exagère l'importance. Croyez bien que ce n'est pas par sentiment de pitié envers ce Sherlock Holmes de pacotille que nous l'avons retenu. Nous avons même fait un essai avec un clone de Jackie Chang. Mais outre le fait que l'économie de cachet est compensée par le coût de la traduction et puis du doublage, il nous avait imposé par contrat au moins un combat de karaté par épisode. Et un combat de karaté à la radio, franchement, ça le fait pas. Et puis, nous sommes contre la violence. Et enfin, Marcel, que nous avons interrogé, a refusé de nous révéler les révélations qu'il avait faites à notre héros. Donc, c'est à contre-cœur et la queue basse que nous sommes résolus à céder à ces délirantes exigences. Voilà, nous allons passer donc au 9e épisode de notre plus grand feuilleton « On est plutôt que ton nez, que tu ne penses » où notre héros retrouve son statut et nous révèle des trucs qui font frémir. Et oui, cher auditeur, c'est moi le héros qui revient avec mon augmentation. Et merci d'avoir appuyé ma demande auprès de la rédaction. Voilà, c'est un vrai plaisir d'être enfin maître de son action. Et à part ce fichu costume qui me gêne un peu au niveau des entournures et qui a surtout l'inconvénient d'attirer l'attention sur moi, tout va bien. Je peux enfin aller au restaurant sans me préoccuper de qui paiera la note. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça me faisait du souci. Voilà, jamais on a vu un tel mois de décembre. Enfin, c'est du moins ce qu'on m'a affirmé de mémoire de taux. Même Marcel dit que jamais il n'avait vu un mois de décembre aussi clément. C'est une vraie mine, ce Marcel. Nous avons bien fait rigoler à la suite de cette interview. Ah non, quel nul, là, ce soi-disant correspondant de la rédaction. Et pourtant, Marcel y avait mis du sien, hein, souvenez-vous.
Ah ben, c'est pas comme les Américains, con. Alors ceux-là, les Américains, je les aime pas, les Américains.
Vous croyez qu'il aurait réagi, l'intervieweur de choc? Non. Que dalle. Ah là là, mais fini les polémiques. Laissons ces considérations mesquines à ceux qui ne méritent pas mieux et revenons à nos moutons. Souvenez-vous de ce que j'ai dit au début du précédent épisode. J'ai, moi aussi, rencontré Marcel et je ne suis pas loin de penser comme lui. Mais que voulez-vous dire par là? Que nous devons à tout prix nous méfier des Américains, car ils nous entraînent vers un conflit ou tout au moins vers de grands affrontements. Et ça, j'en ai la certitude, sinon les preuves. Sur les conseils de Marcel, j'ai tout d'abord surveillé, mine de rien, Jardine. Vous vous souvenez, Jardine, c'est la jeune taux qui m'a aidé en me présentant à de nombreux taux, et en particulier à cette espèce de magicien, de chaman, qui présidait à cette cérémonie dont je vous ai fait part lors de notre dernière rencontre. Je me suis ainsi aperçu que Jardine se rendait tous les jours à Montpellier. Et, fait plus étonnant, c'est devant l'hôtel de ville qu'elle passait ses journées. Elle semblait guetter quelqu'un ou quelque chose. Lorsque j'en parlais à Marcel, il partit d'un grand éclat de rire et me dit
« Bah t'as rien compris, ma querelle. Elle surveille le maire, ses allées et venues, et qui il rencontre, tout ça con. »
Eh oui, ami lecteur, jardine, lateau, mat fraîche. Mais je n'avais pas encore bien compris dans quel but. C'est encore une fois Marcel qui me guida dans mes recherches. Il m'expliqua que les taux se sentaient menacés dans leur existence même par les firmes américaines qui, sans aucun doute, voulaient s'approprier leur région pour poursuivre leurs expériences. Or, ces expériences, menées soi-disant pour le bien de l'humanité, non seulement vont asservir à leur pratique l'ensemble des paysans de la planète, mais également provoquer un génocide du peuple Tau. Oui, vous l'avez déjà compris, je vous parle des OGM, qui non seulement ne vont pas résoudre les problèmes de la faim dans le monde, vont obliger les agriculteurs du monde entier à se procurer chaque année leurs semences dans les multinationales contrôlées par les Américains, mais qui, en plus, rendre les taux tellement agressifs que leurs voisins ne peuvent plus les supporter et se montrent alors vindicatifs et méchants à leur égard. Oui, vous l'avez bien compris, les OGM montent au centre. Heureusement, les taux s'organisent. Et comme je voulais en savoir plus, Marcel me conseilla alors de me rendre au quartier général secret des taux. Ah, bonne idée que je lui dis. Et comment je fais pour ça? Il rit et se contenta de me lancer. Bah va au poteau indicateur. Enfin, c'est du moins ce que j'ai compris dans un premier temps. Et je crus franchement qu'il se moquait de moi. Et comme plus tard je m'en plaignais auprès de Jardine, celle-ci partit d'un grand éclat de rire et me dit « Mais il se moque pas de toi, Marcel. C'est toi qui as mal compris. Il ne parlait pas du poteau indicateur. Viens, je vais te montrer. » Elle me prit par la main et me conduisit jusqu'à la place centrale du village. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de poteau indicateur? Et où il est, ce foutu quartier général des taux? C'est ce que vous apprendrez sûrement en écoutant le 10e épisode de notre grand feuilleton « On est plus tôt que tu ne penses ». Eh bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui et nous retrouverons la semaine prochaine notre héros et nos taux pour la dernière émission qui sera consacrée à ce grand feuilleton « On est plus tôt que tu ne penses ». En attendant, je dis un grand merci à Théo qui toutouille les boutons derrière la vitre et à vous, je dis comme d'habitude, à la prochaine fois, même endroit. Même heure.